France Musique.
Et merci d'avoir choisi France Musique où nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Philippe Jaroussky a participé au disque Symphonie pour la ville, vient de sortir. Il donnera lieu aussi demain soir à une émission de télé sur France 3. Le plus célèbre contre-ténor français continue par ailleurs de s'occuper de l'académie musicale qui porte son nom. Alors comment ses étudiants et les enfants qui y suivent des cours sortent-ils de la crise? Philippe Jaroussky sera notre invité à 9h moins le quart. On ressort chaussons et collants. L'école de danse de l'Opéra de Paris aussi reprend les cours. On en parle tout à l'heure à 8h40 avec Sophie Anastasio dans Classique Info. Au sommaire du journal de Laura Dulieu, tout à l'heure à 8h30, Emmanuel Macron a nouveau monté au créneau contre la Turquie hier soir à l'occasion d'une rencontre avec le président tunisien à l'Elysée. Le chef de l'État dénonce le jeu dangereux de la Turquie en Libye. Et puis connaissez-vous l'archéolutherie? Sans doute pas, c'est un terme inventé par un jeune luthier spécialisé dans les instruments anciens, très anciens, son portrait. C'est dans 25 minutes avec Suzanne Gervais.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Très bon réveil en musique, un café, une sucrète. Voici Michel Corrette.
Thank you.
Si je ne m'abuse, c'est une musique qu'Anne-Charlotte Raymond avait choisie voilà un certain nombre d'années comme générique quand elle présentait la matinale de France Musique. Allegro de ce concerto pour orgue et cordes de Michel Corrette, ce compositeur normand. Il est né à Rouen, qui a traversé le XVIIIe siècle. Il est né en 1707, mort en 1795, compositeur du baroque tardif, donc comme on dit. Et c'était le concerto rococo, dirigé par Jean-Patrice Brosse, grand organiste et claveciniste ici sur l'instrument de Saint-Bertrand de Comminges, où il a fondé d'ailleurs un festival. Le festival de Comminges, Jean-Patrice Brosse, 70 ans aujourd'hui, bon anniversaire. Des bougies aussi pour ce compositeur qui passe le demi-siècle aujourd'hui. Il est né à Brest, c'est à Rennes au conservatoire qu'il apprend le violon, le piano, la direction d'orchestre. Puis il va bifurquer vers le rock et la guitare. Il y a 20 ans, ce compositeur écrit une musique qui va changer sa vie, celle des riverains de la rue Le Pic et aussi la vie des pianos dans les gares SNCF, une musique interprétée ici par Lang Lang, mais si vous allez trouver. Lang Lang au piano, la valse d'Amélie, écrite pour le film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, et oui, par Yann Tiersen. 50 ans aujourd'hui, Yann Tiersen. Allez, on range les bougies pour aujourd'hui et on ouvre les programmes de France Musique. Avec ce soir à 20h, les enfants du baroque qui communient comme tous les mardis avec le père Clément Rochefort. Ce soir, Clément vous emmène à la chapelle royale de Versailles, pour un chef-d'œuvre, un vrai. Les Vêpres de la Bienheureuse Vierge Marie de Monteverdi, avec Raphaël Pichon à la tête de son ensemble Pygmalion. Comment aborde-t-il cette musique? Qu'en fait-il? Réponse ce soir à 20h. Ce qui est certain, c'est que Raphaël Pichon a certainement été biberonné à écouter des dizaines et des dizaines de fois l'enregistrement de John Eliot Gardiner à la tête de son chœur Monteverdi et de ses solistes baroques anglais. Le Nisi Dominus, extrait des Vêpres de la bienheureuse Marie de Monteverdi. C'était le chœur Monteverdi, le chœur oratorio des jeunes de Londres et les solistes baroques anglais dirigés par John Eliot Gardiner. Disque de légende, comme dit notre camarade Lionel Esparza. Ces Vêpres, elles sont à écouter en intégralité ce soir à 20h sur France Musique, un concert enregistré à Versailles, à la Chapelle Royale, avec l'ensemble Pygmalion de Raphaël Pichon. Comme tous les jours à 7h06, c'est-à-dire à 8h15, nous avons rendez-vous avec une voix qui sera avec nous cet été sur France Musique ce matin. C'est une folle de jazz, Marjolaine Portier-Kaltenbach. On la retrouve tous les dimanches de juillet à partir du 5 juillet de 18h à 19h pour une émission qui s'appelle Les Blases du Jazz. Blase, c'est ce mot d'argot qui est revenu à la mode, qui veut dire non, tout simplement. Marjolaine a choisi ce matin pour nous une musique. Elle nous explique aussi l'idée de son émission.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Bonjour à tous. Cet été, sur France Musique, je vais vous parler de Count Basie, de Fats Waller, de Cat Anderson, de Cannonball Adderley. Bref, je vais vous parler de tous ces musiciens de jazz à qui on a donné des surnoms. Et évidemment, je vous dirai d'où viennent tous ces surnoms. Je vous raconterai par exemple pourquoi Billie Holiday est devenue Lady Day, pourquoi Edward Kennedy Ellington est devenu Duke Ellington, et puis je vous dirai aussi comment Nathaniel Adam Coles est devenu Nat King Cole. D'ailleurs, le morceau que j'ai envie de partager avec vous ce matin, c'est justement un morceau sur lequel on entend Nat King Cole. Il est à la fois au chant et à l'orgue. C'est la toute première fois qu'il joue de l'orgue sur un enregistrement, et c'était pas du tout prévu. Lui était venu simplement pour chanter aux côtés du chœur de la First Church of Deliverance. Mais le jour de l'enregistrement, il profite d'une pause pour s'installer à l'orgue. Et là, miracle, il joue merveilleusement bien. Tout simplement parce que son père était pasteur d'une église baptiste et que Nat King Cole avait pris l'habitude très jeune de venir accompagner l'office tous les dimanches. Le morceau que vous allez entendre, c'est donc un spiritual. Il s'appelle « I couldn't hear nobody pray ». Nat King Cole est entouré du chœur de la First Church of Deliverance. Vous allez voir, si vous écoutez ça en début de journée, en principe, ça va vous donner la pêche. Oh, well, I couldn't...
nobody pray. I couldn't hear nobody pray. Way down yonder by myself, I couldn't hear nobody pray. I couldn't hear nobody pray. I couldn't hear nobody pray. My burden and my Savior.
Travel all over the country, travel all over the world, travel all over the world. Nobody could hear nobody pray.
Just seems like I could hear nobody pray. I couldn't hear nobody pray. Yonder by myself, I couldn't hear nobody pray. Couldn't hear nobody pray. Couldn't hear nobody pray. Couldn't hear nobody pray. When I'm yonder by myself, I couldn't hear nobody pray.
Nat King Cole, I couldn't hear nobody pray, les blazes du jazz, c'est tous les dimanches de juillet sur France Musique à partir du 5 juillet, c'est de 18h à 19h et c'est avec Marjolaine Portier-Kaltenbach. Il est 8h19. Une période heureuse dans la vie de Robert Schumann et ça s'entend quand il écrit ses trois quatuors à cordes. La dédicace est pour Félix Mendelssohn. Ici, c'était le scherzo du deuxième quatuor et c'était le quatuor Hermès. Voici Suzanne Gervais. Il est 8h22 d'ailleurs. On remonte le temps avec vous ce matin. Suzanne, bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
Et on retourne au Moyen-Âge et vous nous faites découvrir l'archéolutrie.
Et oui, archéologie et lutherie, ça donne archéolutherie, une dénomination qui est tout sauf officielle, mais c'est pourtant le nom du métier d'Olivier Ferrault, fabricant d'instruments médiévaux et renaissance. Son atelier est à Lyon et sa démarche, qui est résolument différente de celle des luthiers traditionnels, vous allez le voir, mérite absolument un coup de projecteur. Déjà parce qu'un archéolutier sort rarement d'une école de lutherie. D'ailleurs, mis à part une école de lutherie renaissance en Angleterre, il n'y a rien pour le Moyen-Âge. L'archéolutherie, c'est en fait de la recherche appliquée. Et oui, quasiment aucun instrument médiéval n'a survécu. Tout ce qui nous reste date du 15e siècle, ce qui est déjà tard dans le Moyen-Âge. Du coup, pour construire un véritable instrument médiéval, il faut enquêter, faire des déductions d'après tout un tas de sources, des enluminures, des gravures, des sculptures, des traités. Le travail est très méthodique. Olivier Ferrault, notre archéolutier lyonnais, choisit par exemple un modèle sur une enluminure et puis il retrouve les volumes, les proportions. Il redessine tout ce qui lui permet d'établir un plan pour se lancer dans la fabrication avec les outils d'époque. Alors ça va sans dire, l'archéolutherie est un métier de niche, mais comme la musique baroque dans les années 80, la musique très ancienne, médiévale et renaissance, fait sa grande révolution. Elle est de plus en plus enseignée dans les conservatoires et de nombreux festivals lui sont dédiés. Du coup, le marché des instruments médiévaux et renaissance monte tout doucement. Il y a quelques salons connus et des luthiers qui viennent du baroque s'y mettent. Mais pour faire davantage connaître son travail, Olivier Ferrault sort de son atelier pour donner des conférences, faire des réparations aussi au CNSMD de Lyon avec lequel il travaille beaucoup. Il donne aussi des cours au Centre International de Musique Médiévale de Montpellier, un endroit incontournable pour tout médiéviste en France et le seul à former désormais à l'archéolutherie. Sachez-le. Je termine moi en déplorant quand même que les luthiers soient trop rarement invités à parler de leur travail. Ils sont laissés à l'écart du milieu musicologique, notamment alors qu'ils ont beaucoup à dire. Alors vive les disciplines qui, comme l'archéolutherie, mêlent recherche et artisanat et font sauter les cloisonnements.
L'appel de Suzanne Gervais, c'est la lutte, c'est le lutte final. Suzanne Gervais, musique connectée. Oui, je sais, c'est pas terrible. La version web de votre chronique est sur francemusique.fr. À demain, Suzanne. Nous voici du luth et même de l'archi-luth avec plusieurs viols dans la musique de l'anglais Christopher Simpson. Lui aussi, il a écrit un cycle baptisé Les Saisons et un autre intitulé Les Mois. Alors, qu'est-ce que le mois de juin à Londres au XVIIe siècle lui inspire-t-il? Eh bien, ceci. Thank you. de juin, vu par Christopher Simpson dans ce cycle des mois, donc Monthes avec Sophie Vatillon à la viole et d'autres musiciens dont vous retrouverez les noms sur francemusique.fr, sur la page de Musique Matin.
Musique Matin, Jean-Baptiste Urbain.
Symphonie pour la vie, c'est un disque enregistré pendant le confinement en soutien aux soignants. Philippe Jaroussky y a participé, le contre-ténor également à la tête d'une académie musicale qui porte son nom, sera notre invité dans un quart d'heure. C'est un compositeur peu joué, peu enregistré, toujours tiraillé entre classicisme et modernité. Max Reger a pourtant écrit de très belles pages de musique de chambre. Ses deux trios à cordes viennent de paraître en disque, extrait dans 10 minutes. Et puis le syndicat professionnel de la critique, théâtre, musique et danse a remis son palmarès. C'est au sommaire de Classique Info avec Sophie Anastasio juste avant 8h40. France Musique, il est 8h30. L'heure du journal avec Laura Dulieu. Bonjour Laura.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. C'est un procès fleuve qui dure depuis fin septembre, celui du scandale sanitaire du Mediator. Ce médicament mis sur le marché en 1976 initialement comme traitement du diabète, mais détourné comme coupe-faim. 5 millions de personnes l'ont consommé, plusieurs centaines de personnes sont mortes, 6500 sont parties civiles dans ce procès qui entre aujourd'hui dans une phase décisive, celle des réquisitions du parquet. Deux jours entiers y seront consacrés après les plaidoiries des avocats et des parties civiles qui se sont achevées hier. Des parties civiles qui réclament au total 1 milliard d'euros d'indemnisation. C'est sans compter les 450 millions d'euros de dommages et intérêts demandés. Florence Turm, Suisse Procès.
Tour à tour, les avocats des parties civiles ont pris la parole, souvent avec véhémence, au nom des souffrances endurées par les patients et leurs familles, avec une indemnisation très difficile à chiffrer, explique-t-il, car elle conjugue à la fois le préjudice physique et moral, mais aussi l'anxiété massive de tous ceux qui ont pris ce médicament. Une atteinte collective, véritable rupture de la confiance dans le domaine de la santé, dénonce Martine Verdier, avocate de nombreuses parties civiles.
C'est un dommage qui est lié d'une violation d'un consentement. C'est une grosse tromperie, c'est un énorme mensonge qui a duré 33 ans, qui aurait pu d'ailleurs ne jamais être mis à jour si les lanceurs d'alerte et notamment Irène Frachon n'avaient pas été là. Ce qu'on attend, c'est qu'effectivement le ministère public reprenne ces vérités qui maintenant sont acquises au débat et puis que la sévérité de la sanction puisse faire de ce dossier, non pas un dossier exemplaire en termes d'aggravation, mais exemplaire en termes d'appréciation de cette réalité qui est incroyable.
La peine d'amende maximale encourue représente 1 800 000 euros, pas même une année du chiffre d'affaires du médiateur, soulignent les parties civiles, qui appellent les juges à en finir avec un sentiment d'impunité, à prendre une décision symbolique et dissuasive, en ordonnant notamment la fermeture en France des laboratoires Servier.
Florence Sturm. J'étouffe, ce sont les derniers mots prononcés par Cédric Chouvia, ce livreur de 42 ans mort début janvier après un contrôle de police à Paris. Des mots répétés à 7 reprises, selon une expertise datée du 21 avril et révélée par Mediapart et le journal Le Monde. Les 4 policiers à l'origine de son interpellation ont été placés en garde à vue mercredi dernier et entendus par l'IGPN, la police des polices. 9 millions de contaminations dans le monde, plus de 120 000 morts aux États-Unis. La pandémie de coronavirus continue de s'accélérer, selon l'Organisation mondiale de la santé, qui rappelle que les effets de cette crise se feront ressentir pendant des décennies. Aux États-Unis, Donald Trump tente de limiter la hausse inexorable du chômage. Le président américain a annoncé hier geler les cartes vertes et certains visas de travail jusqu'en 2021. De son côté, l'UNESCO alerte également, la pandémie risque d'aggraver les fractures sociales et numériques déjà existantes dans l'éducation. Dans un rapport publié hier, l'organisation met en garde contre l'abandon des populations déjà fragilisées, comme les plus pauvres, les jeunes filles ou les handicapés. Et concernant un éventuel vaccin contre le Covid-19, Sanofi affirme être très bien placé pour en produire un fiable et en grande quantité. Le laboratoire français travaille actuellement sur 2 vaccins attendus courant 2021. Nouvelle guerre des mots entre la France et la Turquie dans le dossier libyen. Alors qu'Emmanuel Macron reçoit Kaïd al-Sayed, le président de la Tunisie, pays voisin de la Libye, le chef de l'État français a dénoncé l'action du président turc Recep Tayyip Erdogan en Libye, en proie au chaos depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Emmanuel Macron accuse la Turquie de jouer un jeu dangereux, Christian Chesneau.
Emmanuel Macron ne décolère pas contre la Turquie. En s'ingérant dans le conflit libyen, le président Recep Tayyip Erdogan menace, selon lui, la stabilité en Méditerranée, mais aussi décrédibilise l'OTAN après des incidents impliquant les marines de guerre françaises et turques. Entre Paris et Ankara, le ton est encore monté d'un cran.
Nous ne tolérerons pas aujourd'hui le rôle que mène la Turquie en Libye. Je ne veux pas, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, avoir à constater que la Libye est dans la situation de la Syrie d'aujourd'hui. Pensez-vous que nous pouvons longtemps laisser la Turquie importer des combattants du théâtre syrien en Libye, compte tenu de tout ce qu'on sait, et se taire ou considérer que ce ne serait pas diplomatiquement correct de ne pas dire et combattre? Donc je suis d'une sévérité extrême avec aujourd'hui le comportement de la Turquie qui est inacceptable.
Derrière cette guerre des mots transparaît aussi l'impuissance de Paris à s'opposer aux ambitions turques en Libye, de la même manière qu'Emmanuel Macron n'avait pu empêcher l'armée d'Ankara de s'attaquer aux Kurdes en Syrie. Le président tunisien Kais Saied n'a d'ailleurs pas caché que le scénario du pire serait une partition de la Libye.
Et la Libye est également au cœur d'une réunion d'urgence de la Ligue arabe aujourd'hui. La Ligue qui s'inquiète des menaces d'intervention militaire de l'Égypte. L'ONU réagit également à ces menaces. La dernière chose dont la Libye a besoin maintenant sur son sol, c'est davantage de transferts d'armes, de combattants ou de mercenaires. Bruno Patino, élu nouveau président du directoire d'Arte France. L'actuel directeur éditorial de la chaîne succède à Véronique Ayla, qui quitte son poste en raison de la limite d'âge de 70 ans imposée aux dirigeants d'Arte. Bruno Patino a dirigé notamment Télérama et France Culture. La météo ce matin, c'est simple, un grand soleil partout sur le territoire. Les températures, quoique toujours un peu fraîches ce matin, vont rapidement augmenter et devenir estivales. Il fait ce matin en moyenne de 11 à 18 degrés et de 17 à 22 degrés près de la Méditerranée. 8h35, vous êtes bien sur France Musique. Jean-Baptiste Urbain, c'est la suite de Musique Matin.
C'était le journal de Laura Dulieu. À bientôt, Laura. Il fait beau aussi à Londres. 16 degrés en ce moment. Londres, 1792. Haydn est au piano pour diriger la création de sa nouvelle symphonie. Un coup de timbale. Tony Truant, qui ponctue le thème du deuxième mouvement, a réveillé tous les spectateurs assoupis, va lui valoir le nom de symphonie La Surprise. Mais surprise aussi au troisième mouvement, où le menuet indiqué Allegro molto très vif annonce les scherzo de Beethoven, on se croirait presque dans une valse. Le menuet de la 94e symphonie, La Surprise de Joseph Haydn. C'était l'orchestre de Cleveland, dirigé en 1968 par George Zell. Il disparaîtra 2 ans plus tard. Et à l'occasion des 50 ans justement de la mort de ce grand chef qui a hissé cet orchestre de Cleveland au rang des plus grandes formations américaines, eh bien, François-Xavier Chemchak dresse toute la semaine son portrait. C'est dans Les Arabesques sur France Musique et c'est à 13h30. Il est 8h40, voici Classique Info. Avec Sophia Anastasio. Bonjour Sophia.
Bonjour Jean-Baptiste.
On commence avec le palmarès du prix du syndicat professionnel de la critique, théâtre, musique et danse.
Le grand prix du meilleur spectacle lyrique de l'année a été décerné à Hercule amoureux de Cavalli, mis en scène par Valérie Lessort et Christian Eck avec l'ensemble Pygmalion de Raphaël Pichon. Dans le palmarès figure également Le Démon de Rubinstein, mis en scène par Dmitri Bertmann, Jakob Lenz de Wolfgang Grimm par André Abrette. Le ténor Benjamin Bernheim et le chef Léo Varinsky ont quant à eux été désignés personnalité musicale de l'année, ex aequo. En danse, le grand prix revient ex aequo, lui aussi à Body and Soul de Crystal Pite avec le ballet de l'Opéra de Paris et Une maison de Christian Rizzo. Le ballet de l'Opéra de Lyon a été désigné meilleure compagnie.
Et puis un autre palmarès, si on peut dire, la Fondation Banque Populaire a dévoilé les noms de ses lauréats 2020.
Ils sont 7 à avoir été récompensés par le jury musique, la violoncelliste Lisa Strauss, la harpiste Mélanie Laurent, le hoboïste Gabriel Pidou, le violoniste baroque Théotime Langlois de Swart, le pianiste Théo Fouchonneret et les compositeurs Bastien David et Samy Moussa.
L'opéra revient finalement à Glyndebourne cet été.
En raison de l'épidémie de Covid, le festival britannique avait été annulé, mais finalement, des concerts et des opéras pourront être donnés en plein air en juillet et en août. Ça commencera avec Mesdames de la Halle d'Offenbach en formation et en public réduit, sans chœur notamment. Un peu plus tard, le London Philharmonic Orchestra a également répondu présent.
Les cours ont repris, y compris à l'école de danse de l'Opéra de Paris.
Et depuis hier, l'école est à nouveau ouverte pour l'ensemble des élèves. Elle avait cessé toute activité depuis le 14 mars. Les examens ne pourront pas avoir lieu. Un système d'évaluation est à l'étude. Par ailleurs, le concours d'entrée dans le ballet de l'Opéra, initialement prévu en juin, est reporté à une date ultérieure qui n'est pas encore arrêtée.
Et puis dans Diapason, le violoniste Renaud Capuçon réagit face aux reproches de suroccupation de l'espace médiatique qui lui ont été faits pendant la crise.
Les frustrations ont parfois pris la forme chez certains, dit-il, d'un déversement de haine au travers de propos diffamatoires que je pourrais d'ailleurs attaquer. Le violoniste ajoute « Je ne changerai rien à ma façon de faire, je n'irai pas me cacher en Antarctique si ma vue chagrine quelques-uns. »
Pas de froid entre nous, Classique Info, Sophia Anastasio, à retrouver sur francemusique.fr dans la rubrique Actualité musicale. À demain Sophia.
À demain.
France Musique.
France Musique. Vous allez l'adorer.
Le disque du jour va peut-être vous faire découvrir un ensemble italien, un trio à cordes. C'est mon cas en tout cas. Je ne connaissais pas le trio Il Furibondo sur leur 2e et nouveau disque qui vient de paraître chez Solo Musica. Ces 3 musiciens ont eu la bonne idée d'enregistrer les 2 trios à cordes de Max Reger. Le compositeur allemand a toujours été tiraillé entre une tradition classique, l'essor de la musique moderne, tout en étant considéré comme l'un des derniers représentants du romantisme, du post-romantisme. Cela s'entend dans cette musique étonnante, pas assez jouée. Voici le scherzo de son premier trio, par le trio Il Furibondo.
Thank you.
Étonnante fin de ce Scherzo Vivace, extrait du premier trio à cordes de Max Reger. C'était le trio italien Il Furibondo et c'est un disque solo Musica France Musique. 8h47, voici notre invité.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Et ce matin, nous avons le plaisir d'être en ligne avec le plus célèbre des contre-ténors français. Bonjour Philippe Jarouski.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
Bonjour, bonjour. L'Académie musicale qui porte votre nom, car vous l'avez créée, cette Académie musicale, elle vient de procéder au recrutement de la prochaine promotion. Comment ça s'est passé ?
Ça a été évidemment un petit peu compliqué. On a dû repousser, bien entendu, les auditions au mois de juin. On vient de les faire et on vient de sélectionner la prochaine promotion qui sera la promotion Beethoven, ce qui finalement n'est pas une mauvaise idée puisque cette année, Beethoven a effectivement eu, je crois, pas mal de concerts annulés. Et d'ailleurs, nous ferons un grand concert Beethoven avec tous ces nouveaux jeunes talents au mois de décembre dans l'auditorium de la scène musicale.
Rendez-vous est pris pour décembre avec du public. Pour les étudiants de cette année, forcément, Philippe Jarouski, la saison a été plus que chaotique. Des masterclass ont quand même lieu tout au long de cette semaine, mais sans public. Dans quel état d'esprit ils se trouvent, vos étudiants ?
Les étudiants, en tout cas les étudiants pré-professionnels, eux, c'est un petit peu plus difficile pour eux. On a eu aussi en plus une masterclass qui est tombée pendant les grèves au mois de décembre. Donc la promotion Ravel cette année a été un peu délaissée par nous et ils se faisaient une joie de travailler avec nous. C'est pour ça qu'on leur a proposé une petite semaine au mois de juin pour essayer de terminer l'année ensemble, puisqu'on a eu aussi ce grand concert de juin avec l'orchestre Appassionato de Mathieu Herzog qui a été bien entendu annulé. On a aussi cette année, c'était une année importante pour nous puisque les jeunes apprentis de la promotion Mozart, c'est-à-dire ceux qui avaient commencé la première année, terminaient leur cycle de 3 ans avec nous. Et je tiens à saluer aussi tous les professeurs des enfants qui ont assuré plus de 1000 heures de cours en visio depuis le mois de mars. Donc on a essayé de maintenir le plus possible nos activités et on espère qu'on va repartir sur de meilleures bases évidemment en septembre prochain.
Un concert de fin d'année vendredi avec les pré-professionnels à voir sur les réseaux sociaux. Et puis, vous l'avez dit, Philippe Jarouski, votre académie, ce sont donc ces pré-professionnels et puis tous ces apprentis, ces enfants des Hauts-de-Seine et donc ces cours qui ont repris. Philippe Jarouski, comme tout le monde et comme tous les musiciens qu'on a tous les jours ici en ligne, tout a été à l'arrêt. Vous, comment vous avez vécu ce moment-là comme artiste ?
Alors moi je l'ai vécu, je crois qu'on l'a tous vécu très différemment. Moi je n'ai pas chanté une seule note pendant un mois.
Déjà. Même pour vous ?
Non, j'ai joué beaucoup de piano et de violon. Je me suis remis aux instruments de ma jeunesse. Et puis petit à petit, j'ai eu aussi bien entendu beaucoup de choses d'annulées, notamment un enregistrement en avril que j'ai pu finalement faire début juin. Donc j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir le faire. On est malgré tout encore dans une forme d'incertitude pour nous tous. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'on pourra finalement reprendre des concerts, on va dire, normalement. Il y a encore beaucoup d'incertitudes. On a tous, je crois, très très peur d'une seconde vague. Et c'est pour ça que, voilà, j'essaye le plus possible de m'adapter. Il y a beaucoup de choses à faire. Effectivement, j'essaie d'enregistrer le plus de choses possible, de faire fructifier ce temps en dehors de la scène au mieux, de réfléchir à des projets futurs, voilà. Mais c'est vrai que je me fais souvent cette réflexion de me dire que notamment, je le vois avec mes jeunes talents de l'académie, c'est très difficile quand on débute une carrière de se retrouver effectivement à l'arrêt et de couper cette dynamique, notamment cette dynamique de début de carrière. Dans la musique ou dans le théâtre ou dans plein d'autres choses, ça doit être quelque chose de très anxiogène et voilà, je pense surtout à eux.
Et notamment les jeunes chanteuses et chanteurs, où vous faites partie des nombreux signataires de cette lettre ouverte, cri du cœur des artistes lyriques. On avait il y a quelques jours ici même Stanislas de Barbera qui nous parlait des problématiques spécifiques des artistes lyriques. Ça vous inquiète beaucoup si, quand on voit notamment aux États-Unis la reprise des saisons qui ne sont pas prévues avant 2021?
Bien sûr, oui, oui, et curieusement, moi, je sais que j'ai des concerts qui commencent également à s'annuler en 2021. Pas forcément à cause de la peur d'une seconde vague, mais c'est qu'il y a dans certains pays, évidemment, une crise économique qui est liée à cela, et donc dans beaucoup de pays, les saisons sont remaniées pour l'année prochaine et sont réduites. Donc c'est ça aussi, on s'inquiète aussi beaucoup pour ça, parce qu'on sait qu'il va y avoir notamment probablement des créations de productions d'opéra qui vont être annulées au profit peut-être de productions d'opéra qui vont être refaites. Donc on a aussi un petit peu peur que la diversité culturelle et il y a des conséquences qui vont être énormes là-dessus. Donc ça, c'est vrai que il faut être vigilant à cela, et bien entendu, moi, en tant qu'artiste confirmé, je me sens privilégié. J'ai la possibilité évidemment confortable de pouvoir presque prendre une année sabbatique s'il le faut, mais c'est évidemment pas le cas de jeunes chanteurs. Vous savez ce qu'on dit souvent ça hein, dans les productions d'opéra, quand vous commencez, vous avez évidemment pas des cachets de chanteurs confirmés, mais vous devez payer votre loyer vous-même. Alors quand vous, notamment les productions d'opéra, quand elles sont loin, vous devez parfois payer un loyer pendant 2 mois. Donc si vous ajoutez à cela les impôts à l'étranger, et tout ça, c'est vrai que c'est déjà un parcours du combattant parfois pour un jeune chanteur. Donc évidemment, on va être très 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 vigilant, et on va suivre de très près les annonces qui vont être faites concernant le spectacle vivant.
Pour finir, Philippe Jarowski, pendant ce confinement, vous avez participé à un disque, Symphonie pour la vie, avec de nombreux autres musiciens. Il vient de sortir en CD, en disque physique. Ce sera aussi une émission de télé demain soir sur France 3. Comment ça s'est déroulé, cet enregistrement confiné?
Alors, c'était justement un enregistrement en plein confinement, vraiment. Donc, c'était très, très compliqué. On a effectivement enregistré dans les studios RFX de la scène musicale avec des conditions sanitaire et de distanciation extrêmement stricte. Donc j'ai joué pour la première fois et enregistré pour la première fois avec deux grands pianistes que sont Alexandre Tarot et Bertrand Chamaillou, mais derrière une vitre. mais on s'est vite rendu compte que on était très très heureux. Ça a été une fête hein, que paradoxalement ce disque, puisqu'on ça a été aussi pour moi donc une des rencontres. Je suis très heureux de voir que, je crois qu'il y a eu un moment, le disque dépassait en vente le nouveau disque de Lady Gaga. Donc,
bravo Philippe.
C'est formidable. En tout cas, je crois que le but est atteint. Et justement, donc demain, il y a cette émission mercredi sur France 3, un grand concert au Théâtre du Châtelet de ce programme. Et je trouve que ça tombe très bien, parce que c'est justement le moment de ne pas oublier les soignants, et de ne pas oublier le soutien aux hôpitaux.
Album pour les soignants, Symphonie pour la vie. Merci Philippe Jarowski.
Merci beaucoup à vous et très bon été à tous.
Merci, on se quitte avec un extrait de ce disque, Les Berceaux. C'est Bertrand Chamaillou au piano et c'est Philippe Jarowski qui chante cette musique de Gabriel Fauré sur un texte de Sully Prudhomme. Thank you.
plus fort que Lady Gaga, Gabriel Fauré, Les Berceaux, Philippe Jarouski, avec Bertrand Chamaillou au piano, José Bernès Dalia et toute l'équipe de Musique Matin vous salue bien. Demain dès 8h35, notre invité sera l'actuel directeur de l'Opéra de Paris, Stéphane Lissner.
À réécouter sur francemusique.fr.